des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Malika Lafer, réalisée par Saïd Bouterfa.
Dans la précédente émission, nous avons vu que Jijel a été le carrefour de plusieurs civilisations dont les traces se trouvent ici et là sur son territoire. Cependant, de multiples noms ont été attribués au fil des diverses occupations, et Jiljili, Jijel, Jijeli et enfin Jijel. Un 13 mai 1839, soit 9 années après la prise d'Alger et 2 années après la crise de Constantine, les troupes françaises débarquent à Jijel. La résistance à ces troupes a été marquée par les offensives menées par les Jijeliens durant la décennie de 1840 jusqu'à 1851. En 1871, le décret Crémieux accordant la naturalisation de tous les Juifs d'Algérie entraîna le soulèvement de toute la population jijélienne. En répression à cela, la quasi-totalité des douars insurgés à Ben Fourel, Ben Tafar ont été déportés vers l'extrême est du pays. La région de Jijel est source inspiratrice pour nos artistes plasticiens. Les plaines côtières de la région de Jijel sont entourées au sud par les reliefs de la petite Kabylie. La topographie est subplane au niveau de la plaine de l'oued Mansha et augmente en progressant vers le sud. La plaine est située au nord, le long de la bande littorale, allant des petites plaines de Jijel, les plaines de la Ouana, le bassin de Jijel, la vallée de Oued Kébir, Oued Boussabia et les petites plaines de Oued Zhour. Dans cette région, la montagne tombe à pic dans la mer et forme une côte très découpée, appelée cornée jijélienne, où l'on admire caps, falaises, presqu'îles et promontoires. On y trouve aussi de très belles grottes et des gouffres encore inexplorés. La wilaya de Jijel a pris une série de mesures pour la préservation de son littoral. La réalisation de stations d'épuration dans les grandes agglomérations garantit et garantira des eaux de baignade irréprochables. Le tourisme en Algérie, comme ailleurs dans le monde, est une industrie capitale pour l'économie nationale. Et comme le tourisme est un facteur de développement, il est primordial de réconcilier, au-delà de leurs différences, l'écologique et le social. Tel est l'objectif du développement durable du tourisme. On écoute Monsieur Silly. Alors le tourisme en Algérie, comme ailleurs dans le monde, c'est une source donc de devises et une industrie capitale donc pour l'économie, avec Monsieur Silly Abdallah, qui est directeur du tourisme au niveau de la wilaya de Jijel. Nous sommes encore dans ce parc animalier de Taza, qui a une double fonction, c'est-à-dire zoologique, attractif, dont une ressource touristique, Monsieur Sali.
J'aimerais rajouter aussi ludique. Ludique du fait que c'est un parc parfaitement bien organisé, assez riche en variétés animales et même végétales. C'est un point de rencontre de touristes, d'estivants, de visiteurs, de passagers. Depuis ces 2 dernières années, il ne cesse de se développer en qualité, en organisation aussi. Et il rentre dans un circuit global, disons, comme j'aime bien l'appeler, le circuit touristique, le fameux circuit touristique de la corniche jijélienne. Et c'est une partie importante des ressources touristiques dont jouit la wilaya de Jijel, particulièrement la partie ouest. J'aurais aimé un petit peu insister sur le côté mise en produit des ressources touristiques. Elles sont fameuses, belles, uniques et authentiques. Mais cependant, il faudrait passer à l'autre étape d'exploitation. L'exploitation, c'est leur mise en produit dans un cadre organisé, avec une perspective de développement du tourisme globalement. Mais soyons logiques avec nous-mêmes, commençons par le commencement. On a des ressources, il faut investir. C'est déjà fait à Jijel. Il fallait organiser le tout. Il fallait équiper ces ressources pour qu'elles puissent être exploitables et rentables pour le citoyen. Vous parlez de devises, c'est bien, mais aussi il y a le dinar. Il faut que les flux financiers puissent fonctionner, puissent bouger, et c'est tout bénéfice pour la population, pour les rentrées financières de trésor public, pourquoi pas. Donc tout ça a été fait suivant une politique très claire, très ambitieuse. Et moi je pense que le challenge a été relevé.
Monsieur Sali, les principaux pôles de la région, il y a le balnéaire, la mer et la forêt.
Vous avez raison, quand on est en bord de mer, le tourisme balnéaire, c'est la principale activité de la wilaya. Mais cependant, on a cette interaction, on a ce mariage entre la mer et la montagne. Parfois, on ne sait même plus si on est en bord de mer, en bordure de forêt. Ce qui fait que le climat dans son orgueil, cette wilaya avec une pluviométrie qui dépasse les 1200 mm, parfois ça atteint les 1800 mm par an, au lieu une des plus importantes du bassin méditerranéen, une faune et une flore quasi exceptionnelles, un climat doux, une température moyenne de 26 degrés durant toute l'année, ce qui fait que le climat donne cet avantage au développement de certaines ressources touristiques encore. J'aimerais bien parler du grand circuit touristique qui a été mis en place à Jijel, qu'il a fallu entièrement élargir et rénover la RN43, c'est-à-dire la corniche Jijel. Elle est maintenant agrandie, élargie, sécurisée, bien faite, etc. Et c'est ponctué tout le long de cette corniche de ressources magnifiques et authentiques. On peut parler des grottes merveilleuses, qui sont très bien organisées, sécurisées, des grottes Gharlbez que la wilaya a mis en œuvre, c'est-à-dire en lui donnant un thème original. En Algérie, c'est la préhistoire, avec des animaux préhistoriques à l'échelle 1 sur 1. Et la cerise sur le gâteau, si je puis appeler ça comme ça, c'est le parc animalier, inauguré le 6 juin 2006. Il y a aussi le Grand Phare, qui est une petite merveille. Et toute la corniche est ponctuée de plages, toutes aussi différentes les unes que les autres. Maintenant, si on peut parler de plages, elles ont été équipées en quelques années. Un effort colossal a été entrepris pour justement valoriser ces plages et les équiper parfaitement. Et on obtient un produit touristique maintenant qui est quasiment commercialisable.
Monsieur Silion, on a constaté que les plages sont très propres et quant à la qualité des eaux aussi, elle est exceptionnelle.
C'est un fait. Il y a des analyses qui sont faites quotidiennement, bactériologiques et physico-chimiques, durant la période estivale. Et on n'a jamais eu de problème dans ce sens de mauvaise qualité. Et pour prévenir tout ça, avec le développement du tourisme, la wilaya a mis un programme vraiment très ambitieux de stations d'épuration tout le long du littoral. Et, alhamdoulilah, la première station, elle est fonctionnelle, elle est de Jijel, elle est située dans la ville de Jijel, qui traite pratiquement toutes les eaux de la ville et celles des environs. Et on a en projet pour toutes les agglomérations côtières et même il y a d'autres stations d'épuration. Et de cette façon, on aura la garantie, je dis bien la garantie, d'une qualité exceptionnelle des eaux de baignade.
Monsieur Sili, donc on rappelle que vous êtes le directeur du tourisme ici au niveau de la wilaya de Jijel. Est-ce qu'il y a d'autres pôles aussi touristiques à développer?
Le balnéaire, son complément, c'est le tourisme de montagne. Or, on a les deux ressources qui sont mises côte à côte. Le développement du balnéaire ne va pas aller sans le développement du tourisme de montagne. Et dans la stratégie de développement du tourisme mise en place par la wilaya, il y a des projets. Il y a le SDAT qui est mis en place et On prévoit le développement de ce tourisme de par la création de gîtes, de randonnées maritimes, pédestres, équestres, à travers toutes ces forêts. Le SDAT, justement, le schéma directeur de l'aménagement du tourisme, il est là pour tracer la voie à tous ces projets qui vont venir en complément du balnéaire.
La région a connu un enclavement, une stagnation et en 2005, l'ouverture en juin de la saison estivale a donné un regain économique à la région.
Oui, on peut appeler ça comme ça. En juin 2005, ça a été quasiment exceptionnel. Les autorités de la wilaya, à leur tête M. Louali, ont mis vraiment le paquet du point de vue organisation, du point de vue qualité des spectacles. Et il y a eu une ouverture de la saison estivale quasiment grandiose, qui a eu des répercussions à travers tout le territoire national, d'où une affluence quasi record de pratiquement 11 millions et quelques d'estivants. Et les gens ont connu Gigil, et c'est de là que les choses ont commencé.
Je suppose que 11 millions d'estivants venant pendant la période estivale, ça encombre, et est-ce qu'il y a des structures qui peuvent les accueillir tous, ou alors il y a d'autres structures qui sont appelées à être construites?
Non, je crois qu'il faut définir d'abord le mot, la définition du mot estivant. L'estivant, c'est celui qui vient pour la journée et repart le soir. Et le touriste, c'est celui qui passe la nuit. Donc c'est pour ça que c'est les mêmes personnes qui reviennent, du fait qu'ils sont satisfaits, et ça fait un nombre quasi exceptionnel. Disons le touriste qui vient à Gigil, et j'ouvre ici une petite parenthèse, et Gigil est devenue la capitale des voyages de noces. Beaucoup de gens de partout en Algérie, même d'Europe, viennent pour leur voyage de noces à Gigil, parce que ça dégage un cachet familial, sécuritaire, bon enfant, et qui fait qu'une réputation commence à se construire sur ça, justement. Et moi, je pense que les choses vont s'améliorer encore plus.
Pour conclure, c'est devenu la Mecque des amoureux?
Oui, on peut dire comme ça, parce que Gigil, je ne sais pas si je peux philosopher un petit peu, mais si Dieu a mis 7 jours pour créer le monde, le 7e, il était réservé à Gigil.
Le parc zoologique avec une superficie de 25 hectares, un joyau dont les Gigéliens sont très fiers, où l'on trouve de diverses espèces d'animaux. Il répond à un besoin vital de ludisme et de convivialité, un endroit très agréable pour les 7 à 77 ans, que dis-je, jusqu'à 100 ans on peut y aller. Alors à Gigil, il y a un parc zoologique récemment construit, un parc zoologique avec 24 hectares où se trouvent plusieurs sortes d'animaux. Il y a la volatile, les herbivores, les carnivores, avec Mlle Bedouhane Lilia. Elle a bien voulu donc nous servir de guide pour nous parler donc de ces espèces qui existent aujourd'hui. Alors, Mademoiselle Bedouhane Lilia, merci de nous avoir baladé dans ce parc zoologique qui date depuis deux ans, 2006.
Ça date de juillet 2006. C'est assez récent quand même.
Il y a donc des volatiles, des herbivores, des carnivores. Racontez-nous un petit peu comment ces espèces-là sont arrivées et elles s'adaptent au climat et à l'environnement.
Actuellement, au niveau du parc zoologique de Gigil, le parc de Taza, on a un cocktail d'animaux. Comme vous disiez, on a les volatiles, comme par exemple l'autruche, l'émeu, les divers genres de canards et de oies aussi. Les autres herbivores, on a aussi les chèvres, les cerfs, les mouflons aussi, ainsi que les ongulés, comme les zèbres, les poneys. Et l'autre zone, la nouvelle zone, c'est la zone des lions, des fauves en général, des lions, des ours et des loups qui sont arrivés de Serbie. Et récemment, on a fait l'introduction d'une autre espèce qui est l'éléphant, c'est une éléphante d'Alger. Les divers animaux qui existent au zoo, c'est des animaux qu'on a ramenés du parc de Ben Aknoun d'Alger et du parc de Jbel Wesh de Constantine. On les a ramenés. On a ramené aussi de Serbie les loups et les ours.
Ce sont des animaux qui sont pas habitués au climat. Quand on parle de l'ours qui vient de Serbie, est-ce que ça, vous ne rencontrez pas de problèmes?
Actuellement, on les a ramenés depuis presque un mois, mais ça va. Ils sont un petit peu stressés, mais certes, ça va pas jouer sur l'état de santé. Aussi, on essaye de gagner du temps pour les faire relâcher à l'extérieur, mais actuellement, l'état sanitaire et le comportemental, il est très bien. dire.
Bon, on a vu des animaux qui connaissent la semi-liberté, tels que les poneys, mais on a du mal à admettre des lions et des ours en semi-liberté.
Oui, effectivement. Bon, c'est des animaux quand même, je dirais pas agressifs, mais certes, c'est des animaux. Il faut faire attention vis-à-vis du visiteur. On essaye de faire des conditions meilleures à l'extérieur de leur bâtisse pour mieux les entretenir. C'est tout. Les loups, bon, ils se comportent la même chose. Ils se comportent bien. Ils s'habituent malgré que le couple de loups qu'on a ramené, c'est des loups qui étaient dans des clans différents. Ils se comportent très bien, alhamdoulilah. Ça pour les autres animaux qu'on peut les relâcher. C'est des animaux qui ne peuvent pas faire des dégâts.
Mademoiselle Bédouhane, tous ces animaux, vous les avez appris dans la théorie. Aujourd'hui, vous, en tant que vétérinaire, c'est la pratique. Comment les choses se passent pour vous?
Bon, certes, on a fait des études en médecine vétérinaire, on a quand même un bagage, on a une base. Oui, et au fur et à mesure, on est directement en face d'un zoo qui est plein d'animaux qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec. Mais on essaye de faire de notre mieux, on essaye de faire des petites recherches de part et d'autre. On essaye d'apprendre avec l'animal directement, en direct, vis-à-vis de leur comportement, de leur psychologie. Chic et tout.
37 espèces d'animaux qui se trouvent ici dans ce parc zoologique, ici à Gegel. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver?
Oui, on fait l'extension du parc au fur et à mesure. On essaye de créer une autre zone, d'autres bâtisses, d'autres enclos. Dans le programme, on essaye de faire venir des tigres et d'autres animaux. C'est des dents en général. S'il y a des échanges, on ne sait jamais.
En tout cas, merci pour votre visite. Vous êtes deux vétérinaires. En principe, il doit y en avoir beaucoup plus, non?
Oui, Inch'Allah, dans le programme, on est deux vétérinaires sur place. Mais on essaye de faire venir peut-être un collègue.
Lorsqu'on prolonge la corniche gigélienne, entièrement réaménagée et élargie, elle dégage présentement une grande sécurité, des opportunités touristiques, des aires de stationnement, des fontaines de qualité et des accès aux criques. Les grottes merveilleuses, glacées et de grande renommée présentent une valeur sûre pour le tourisme local. En premier lieu, nous avons visité celle de Ralbez, aménagée pour un thème ludique qui est la préhistoire, rencontre un succès considérable auprès des visiteurs. On écoute M. Boucharel.
Avec M. Clicha, nous sommes dans la Grotte Merveilleuse, guide depuis une vingtaine d'années. Merci donc de nous recevoir.
C'est une grotte naturelle, à dimension restreinte. Elle fait environ 942 mètres carrés. Et sa découverte a été sur un simple coup de hasard. 1917, travaux d'août, on est tombé dessus. Bon, la découverte, c'était par là, bien sûr, le côté nord, le côté ouest, est plutôt. Et la porte de l'ouest, l'accès de l'ouest a été ouvert, du nord, en 1917, pour des raisons techniques. Parce que l'eau qui avait été trouvée ici avait été évacuée par cette dénivelée. Hein. Et à l'intérieur, nous avons un dépôt de calcaire, de millénaire, bien sûr. Vous avez des stalactites, des stalagmites et des colonnes. Une colonne, c'est la jonction entre une stalactite et une stalagmite, ça s'appelle une colonne. Et vous avez de très belles drapées. Voilà. Vous voyez les drapées qui prennent la forme de drap, qu'on appelle une drapée. Et à l'intérieur, nous avons une température qui est stable, 18 degrés, un taux d'humidité assez appréciable. C'est un milieu qui est prospère au dépôt des sédiments. Ces sédiments sont enchaînés par eau pluviale et déposés au sein de la cavité.
La pierre que nous voyons ici, qui a subi et l'érosion et le système tectonique, ressemblerait aussi à du beau marbre.
Hein? C'est la calcite, la CaCO3. La calcite, c'est la famille du marbre, hein? CaCO3. Il y a d'autres oxydations, telles que l'oxyde de fer qui est dans le marron, le carbone de cuivre, mais ce sont des minerais contaminants. Parce que la majorité, c'est la calcite, c'est le calcaire. Ce qu'on appelle un calcaire en précipitation.
Donc rien ne la fera bouger, hein, cette pierre.
Ah, bien sûr, c'est costaud. Tant qu'il y a des colonnes, il se pourrait qu'un beau séisme pourrait basculer cet ensemble. Hein.
On continue.
On continue. Mais à l'intérieur de la cavité, le visiteur pourrait éventuellement en s'inspirant, je dis bien en s'inspirant, découvrir des formes subjectives. Ces formes ont été sculptées par l'eau et vues différemment par l'homme. Ça dépend de l'angle de vision et de l'inspiration, je dis bien. Je pourrais éventuellement vous suggérer des formes, mais c'est à vous de deviner. Hein.
C'est au plaisir du visiteur. Là, on a l'impression de petits châteaux qui sont entourés.
Oui, ça, c'est votre inspiration, ça, c'est votre point de vue. Moi, je vois deux singes magots. Voilà, on est deux singes magots. Et je vois un poisson, voilà. La forme d'un poisson, j'ai dit bien la forme. Ça dépend de quel angle. Tout à fait au fond, je vois un aigle, la tête d'un aigle. Corro il vase, au fond. Bon, on fait un tour à l'intérieur. Voilà, nous avons une très belle drapée. Voilà, c'est ce qu'on appelle une drapée. Une drapée, ça se forme comment? Et quand les gouttelettes font l'apparition sur la surface libre, ces gouttelettes qui sont chargées de cristaux, elles prennent un coup d'incliné et automatiquement, au cours de cette inclinaison, les cristaux sont déposés. Et ça forme une drapée, ce qu'on appelle une drapée. Par contre, stalactites, stalagmites, ça va dans un sens vertical l'une vers l'autre, selon la loi de la gravité, la chute libre. On avait dit que les stalactites et les stalagmites, ça se développe dans un sens vertical l'une vers l'autre pour former, en fin de compte, des colonnes, et d'une moyenne de centimètres cubes par siècle. C'est un secret pour vous. Centimètres cubes par siècle. Et on peut remarquer que cet ensemble va dans un sens horizontal. Ça, c'est pas logique. C'est tout un bloc de stalactites qui a été basculé par un séisme, une surcharge. Mais dès que ce bloc est tombé, la nature, elle a repris son travail et automatiquement, il y a d'autres stalagmites qui sont en train de monter là-dessus.
L'eau, il interviendrait comme sculpture et aussi comme destructeur aussi.
Non, ici, l'eau ne peut pas détruire. Ici, l'eau, c'est un véhicule et c'est un sculpteur. Éventuellement, il pourrait détruire quelque part, des destructions quelque part. Mais ici, l'eau, l'intérêt de l'eau, parce que ces eaux, ce sont des eaux pluviales qui contiennent du CO2. Ce CO2 leur permet automatiquement d'être agressives, d'agresser la roche en dessous de nous et de s'évaporer à l'intérieur de la cavité parce qu'il y a pour avoir une action chimico-physique. L'eau s'évapore.
Alors, tous ces termes techniques qui font donc la beauté de cette grotte appelée grotte merveilleuse, je suppose qu'elles doivent attirer pas mal de visiteurs pendant la période estivale. Hein.
Oui. C'est-à-dire que le nombre d'habitants de Gigel ou de Ziama pourrait éventuellement être multiplié par 10 si on fait les statistiques, durant le mois d'août certainement.
Finalement, aujourd'hui, avec cette grotte avec effet naturel, on a l'impression qu'il y a des chambres, qu'il y a des antichambres et tout ça. Elle a toujours été comme ça, dès la découverte, ou alors il y a eu des transformations depuis?
Non, écoutez, la transformation humaine, ça va dans un sens négatif. Il y a eu du vandalisme. Bien sûr, on a coupé des pierres et c'était la mauvaise gestion de l'époque. Parce que les années de l'indépendance, c'était une gestion archaïque, anarchique. On mettait ça aux enchères publiques. Le privé avait le droit de gérer la grotte. Mais maintenant, c'est géré par un parc national, c'est encore étatique. Le parc national de Taza, c'est bien géré par le parc. Et ce n'est pas géré dans un sens commercial. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que la rentrée de la saison estivale, c'est symbolique en prix de 30 dinars par adulte. Les enfants, c'est presque gratuit. Il y a des gens, il y a des associations gratuites, étudiants gratuits.
Hein. Monsieur Clicha, en visitant la grotte merveilleuse, vous nous parlez de New York. Alors, c'est quoi New York pour vous?
Pour moi, c'est la Statue de la Liberté. D'ailleurs, le grand architecte français Bartoli en a fait une, et la nature en a fait une autre. Voilà, vous pouvez remarquer qu'elles ressemblent parfaitement, mis à part quelques petits détails. Hein. Alors, en face de vous. Voilà.
Et ça ressemblerait autour?
Non, ça ressemblerait au avant-plan de Manhattan, si vous connaissez le sud d'ailleurs. Hein. Voilà, moi je vois quatre pieds d'un chameau, un dromadaire, voilà. Je me suis inspiré sur quatre pieds d'un chameau, tout à fait au fond. Voilà, on dirait un chameau qui va pivoter à droite. Les pattes arrière et l'avant.
Alors, Monsieur Clichas, c'est une grotte merveilleuse de par son nom. Elle suscite en vous des petites histoires merveilleuses aussi?
Pour moi?
Oui.
Non, mais pour moi, je ne demande rien du tout. Je demande que, tout simplement, aux visiteurs d'être un peu attentifs et ils respectent un peu le site. Voilà, c'est ça. Ils donnent un peu plus de respect au site et avoir un peu de respect pour le site et un peu d'inspiration. Parce que c'est pas un site qu'on visite avec chahut.
Okay, ça vous inspire un petit peu de la cérémonie, de la religiosité?
Écoute, certainement oui. Oui. On est croyants quand même. De certains drapés en parallèle, on pourrait dégager des sons de différents sons musicaux. D'ailleurs, vous pouvez les entendre. Écoutez, cet instrument de musique, on ne laisse pas les gens toucher. Parce que, et même en saison estivale, Eh bien, mais les visiteurs n'ont pas de chance. On ne pourrait pas éventuellement utiliser ça pour des raisons écologiques.
Pourquoi ?
Parce que quand on touche, tout le monde touche. Et pour des raisons écologiques, parce que le toucher, c'est très sensible. Et c'est la pollution, regardez bien. Voilà la pollution. Et cette grotte est un écosystème très, très complexe. Déjà, le fait de respirer à l'intérieur, c'est une pollution. Le CO2 qu'on dégage, pour la pauvre cavité, c'est une pollution.
Il faut la protéger précieusement.
Oui, certainement, oui. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'impression de survoler le Tassili par avion. Voilà, regardez bien, en face. Voilà une vue générale du Tassili.
On a bien compris chez vous, M. Cléra, qui êtes guide depuis maintenant près de 20 ans. Ça a suscité en tout cas en vous tout un imaginaire. Vous êtes là à Gigel, sur la côte gigélienne, et vous vous promenez entre New York et le Tassili.
Oui, certainement, oui, oui. Oui. On ne s'ennuie pas ici à l'intérieur.
Nous sommes près d'un tableau qui ressemblerait au signe de la sagesse, c'est-à-dire l'histoire des trois singes.
L'histoire des trois singes, oui, c'est ça. Ouais. C'est très vendu en garniture, surtout en Europe. Les trois têtes de singes vendues en garniture, sur l'aveugle et le muet, voilà, on peut les voir ici. Voilà. On les appelle différemment en Europe. En France, on les appelle aussi les signes du bonheur. Pour certaines familles superstitieuses, ça porte au bonheur. Paraît-il, les premières visites publiques remontent aux années 40, les Français étaient sur un projet d'un film très important. D'ailleurs, un film qui a été d'une très grande réputation, Pierre Benoît. L'Atlantide, la fameuse cité engloutie par l'océan. Eh bien, quelques images ont été tournées à l'intérieur. C'est un film en noir et blanc, hein, l'Atlantide. Parce que l'Atlantide existe en plusieurs versions. Hein. La version américaine, la version anglaise et la version française, c'est Pierre Benoît.
Alors, Monsieur Cléra, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a un nombre important, même très difficile à maîtriser, le nombre de visiteurs qui viennent dans ces grottes, ici sur la côte gigélienne. Mais aussi, donc, aujourd'hui, il y a une prévention indispensable à retenir.
Bien sûr que je vous ai dit déjà que les dispositifs humains mis ici pour recevoir ce flux très important, surtout le mois d'août, je parle du mois d'août, enfin juillet, c'est pas tellement là. Mais le mois d'août, du 1 au 31 août, c'est de l'ingérable. Mais je lance un appel aux visiteurs qui a certaines règles à respecter, bien sûr. Et le comportement civilisationnel du visiteur, il se soumet aux lois du guide. La photo interdite, le toucher interdit, et on suit le guide. Voilà. C'est pour ça que nous avons des problèmes de maîtrisation, de maîtriser l'afflux du mois d'août. Vous avez un chiffre? De 9h du matin jusqu'à 20h du soir, tout âge confondu, on peut arriver jusqu'à 5000 personnes par jour.
On vous souhaite longue vie et longue vie à la grotte aussi?
Bien sûr. Chokran.
Dans un élan d'amour et de coups de foudre, me diriez-vous, Madame Sidira Corinne, médecin généraliste, arrive à Gigel en 1967. Elle rencontre son mari blessé dans le maquis de la Hélène à l'hôpital de Genève, alors qu'elle était étudiante en médecine. Structurée et organisée dans sa médecine suisse, elle choisit l'aventure, celle de suivre son mari à Gigel, dans une région où la médecine était précaire, les vaccinations ignorées par les populations, où le taux de mortalité enfantine était très élevé. Madame Sidira Corinne, ne sachant pas un mot d'arabe, décide de franchir l'obstacle en se rendant dans les montagnes pour rencontrer les femmes, où détresse et gentillesse s'y mêlaient. Elle en garde des souvenirs heureux. On l'écoute. Alors, Madame Sidira Corinne, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ici à Gigel depuis 1967, vous arrivez donc dans la région comme médecin généraliste, marié en Suisse, votre défunt mari, ancien maquisard à la Hélène, blessé au maquis, il devient aveugle, et vous le rencontrez pendant que vous faisiez vos études de médecine à Genève. Madame Sidira, merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Ici à Gigel, vous êtes comme une icône, c'est-à-dire que vous êtes presque un personnage incontournable.
Mais écoutez, bon, comme on dit, les gens de Gigel qui semblent me considérer comme telle, moi je me sens gigélienne parce que j'habite ici depuis longtemps, j'aime la ville, j'aime le pays, et voilà.
Oui. Alors vous arrivez donc en 67, tout jeune médecin, vous étiez dans une médecine à Genève très structurée, et là tout d'un coup vous êtes face à une situation assez particulière, à savoir Gigel était dépourvu de médecins. Bon, il y avait quelques médecins qui venaient de
pays de l'Est. Oui. Vous vous retrouvez donc toute jeune face à une situation où la région, la santé était très précaire. Seul médecin de service, comment vous avez vécu ces années-là?
C'est vrai que les médecins qui étaient là étaient partis. C'était des médecins français en général. Et ils sont partis donc après l'indépendance, ou avant, enfin en 62. À partir de 62, il n'y avait plus grand monde. Et donc quand je suis arrivée, il n'y avait plus que 5 médecins des pays de l'Est qui exerçaient chacun une spécialité. Il y avait un chirurgien hongrois, une gynécologue arménienne, un pédiatre russe, un médecin bulgare qui faisait les unités de soins, et moi. Donc nous étions 5.
C'était très cosmopolite.
Il parlait français. Donc j'avais de bonnes relations avec eux, et tout de suite il y a eu collaboration, il y a eu entente, mais je me suis retrouvée avec de fortes responsabilités à laquelle j'ai dû m'adapter. Mmh. Et puis aussi des difficultés de langage, parce qu'à l'époque je parlais pas
le gigélien.
Et des moyens précaires, et vraiment ça a été la médecine qu'on a un peu perdue maintenant, c'est-à-dire une médecine où on devait se servir de ses 5 sens. La vue, le toucher, l'ouïe, etc. Vraiment, c'était une médecine qui était encore très clinique.
Oui.
Bien que nous ayons à l'époque un laboratoire qui faisait quand même quelques analyses qui nous aidaient à faire des diagnostics, tout à fait.
Oui. Pas de médecine préventive, évidemment.
À l'époque, la médecine, quand je suis arrivée en 67, la médecine préventive n'était pas encore installée, mais il y avait un dispensaire antituberculeux. Déjà, tuberculose, ça a été un peu plus tard. En fait, la seule discipline préventive a été entamée à la fin des années 60, au début des années 70. Ça a été la lutte contre le paludisme.
Ah oui.
Ça a été le programme de lutte contre le paludisme.
Il faut dire que la région est marécageuse et a une pluviométrie la plus importante, en tout cas, presque d'Afrique.
D'Afrique du Nord, oui.
D'Afrique du Nord, oui.
Une pluviométrie importante et une région très impaludée où les gens souffraient du paludisme, oui, effectivement. Et cette campagne s'est installée sur tout le territoire algérien. Il n'y a pas que Gigel. Mais je dois dire qu'elle a été très efficace, en tout cas à mon niveau, et je crois que sur tout le territoire national, je sais que ça a été très efficace. C'était chapeauté par l'OMS, et le paludisme a été éradiqué en quelques années. Et ça a été remarquable. Et je disais que par rapport au problème que pose encore le paludisme maintenant en Afrique subsaharienne et dans les pays d'Afrique plus au sud, je pense que ça a été un succès, vraiment un succès. On n'a plus eu de paludisme depuis des décennies, dans notre région.
Madame Zdira, le paludisme est une maladie assez compliquée parce qu'elle est déclarée pendant les crises. Lorsque la crise disparaît, la personne en devient presque normale.
Voilà, c'est une maladie qui évolue par un cycle de fièvre de 3 jours, mais parfois on peut rester des semaines sans avoir de crise de paludisme.
Toute jeune, donc vous êtes là à Gigel, ça ne vous change pas trop de Genève?
Ça change.
C'est très boisé, il y a de la verdure.
C'est magnifique. Une nature absolument. Oui.
À défaut de lac, vous avez la mer.
Voilà. Et puis, ce qui était très, très agréable, c'est que non seulement la nature est belle, elle était et elle l'est toujours, magnifique, mais en plus, on avait une grande liberté, une grande sécurité.
Oui.
Moi, j'ai circulé seule dans les montagnes, j'ai marché à pied, et vraiment, on avait un sentiment de sécurité. Les gens aidaient.
Justement, parler des montagnes, Madame Zdira, toute jeune médecin, il a fallu aussi aller dans les montagnes et rencontrer les femmes qui habitent et qui ne descendaient jamais dans la ville. Et il fallait donc soigner, vous alliez, c'était un choc culturel, quoi.
Ah, agréable. Je n'avais qu'un remords, c'est que le médecin, en général, pas seulement moi, mais les médecins étaient très attendus dans les salles de soins. Les salles de soins étaient précaires, elles étaient plus précaires que maintenant. Souvent, c'était des simples abris en ciment avec un toit en tôle, et voilà. Mais les femmes étaient très, attendaient le médecin avec impatience.
Oui.
Et elles étaient très nombreuses. Et il fallait. Oh, elles attendaient des fois depuis très tôt le matin. Alors ça, c'est un peu difficile pour le médecin parce qu'il sait qu'il y a des malades qui attendent. Et puis ils sont très nombreux et parfois il faut se dépêcher, mais en même temps il faut faire bien.
Oui.
Donc c'est un rythme soutenu.
Oui. Il y avait un taux de mortalité aussi important.
Un taux de mortalité important.
Parce que les vaccins n'étaient pas arrivés jusque là-haut.
Non, il y avait sur, en moyenne, les femmes avaient beaucoup de grossesses à l'époque. Il n'y avait pas de contraception du tout. Et une femme, en moyenne, pouvait avoir 10, 12, 15 enfants. Toutes ces grossesses, il restait de manière courante un tiers vivant, parfois même moins. Une mortalité très élevée. C'était un peu considéré comme une espèce de fatalité, comme une chose connue qui était là depuis des siècles, en somme. On perdait des enfants, c'était presque quelque chose.
Oui, une fatalité.
C'était triste, mais en même temps, c'était un peu une fatalité.
Oui,
à l'époque. Oui.
C'était Dieu qui voulait
voilà,
ainsi.
Voilà.
Vous avez cessé d'exercer depuis maintenant pas mal d'années.
Je n'exerce plus. Je suis à la retraite depuis maintenant 10 ans, vous le dire. Oui.
Les femmes, c'était aussi les femmes dans les montagnes, parce que c'est pas les campagnes, c'est les montagnes. Il fallait monter si haut.
Oui.
Quel regard portez-vous sur ces femmes-là? C'est des femmes courage quand même.
Ah, c'est des femmes remarquables. D'abord, une espèce de solidité. Elles étaient dures au travail, très actives, très très dynamiques et en même temps gaies. En même temps gaies, c'est des femmes du tout sombres, c'est pas du tout. Elles étaient libres aussi.
Libres de leur mouvement.
Libres, oui, de leur mouvement, mais dans la mesure où ça allait dans leurs objectifs, si vous voulez.
Oui.
Une femme ne circulait pas à la campagne comme en ville. La femme ne va pas n'importe où. Elle a ses sentiers, elle a ses chemins. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait une liberté parce que dans les douars, tout le monde se connaît. Donc, on ne se gêne pas, on porte pas de haïek, on porte juste un petit foulard. On portait à l'époque juste un petit foulard sur la tête et voilà. Et on partait chercher du bois, chercher des plantes, du fourrage pour le bétail et en même temps il fallait préparer les galettes et puis il fallait s'occuper des enfants. Elles avaient leurs enfants sur le dos souvent et puis elles partaient en groupe et ça papotait, ça discutait sur le chemin et, non c'était
ça
pas ça échangeait bien sûr, ça commentait bien sûr, les nouvelles venaient de loin, elles étaient commentées et tout. Non je crois que elles avaient pas du tout une vie ni monotone, dure certes, mais pas désagréable. Non, pas du tout.
Donc ça c'était assez surprenant pour vous qui
c'était
veniez...
surprenant, oui, et moi ce qui me surprenait c'était cette patience, cette sagesse des femmes qui attendaient tranquillement. Bon, parfois, il y en a qui voulaient passer avant d'autres, mais elles attendaient là avec leurs enfants dans leurs bras. Elles discutaient tranquillement et tout ça se passait dans le calme et là, c'était serein, si vous voulez.
Avant d'arriver justement à Gégel, votre mari vous a dit non, tu ne pourras pas t'y adapter.
Ah non, il avait dit ça, je crois, en plaisantant. Il avait dit ça en plaisantant, il m'avait mise en garde, tu sais, là-bas, ça va être dur, tu sais, il n'y a pas de goudron sur les routes, il y a des poules. Mais c'était, il plaisantait, il savait bien que c'était pas comme ça.
Trois enfants, et là vous êtes complètement dans Gégel. C'est le cœur, il balance entre Gégel et Genève, ou alors
Non, maintenant je suis, depuis ma retraite, je suis à Gégel. Enfin, mon père était à Paris, donc je me suis occupée un peu de lui pendant quelques années. Et puis j'allais, je venais. Mais maintenant, il est décédé, là, Rameau. Et oui. Mon père était géologue. Oui. Et pendant quatre étés, il était géologue et il était aveugle. Donc pendant 4 ans, nous avons parcouru en été les sentiers en Grèce du Nord, qui était son terrain de thèse, parce qu'il voulait revoir son terrain de thèse, et nous avons filmé un petit film géologique sur son terrain de thèse. Donc ça m'a occupée pendant 4 ans. En fait.
Donc l'aventure vous vient de votre père?
L'aventure me vient de mon père, oui, parce que lui aussi, il est allé tout seul, il est allé dans les montagnes, lui c'était la guerre. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il y avait une grande similitude entre les... Bon, son terrain de thèse, c'était un terrain tout à fait très peu connu, personne n'avait été avant lui, et il y a eu une grande similitude entre la vie des paysans grecs, oui, et la vie des paysans des montagnes des environs de Gigelles. C'était une grande similitude. Oui, tout à fait.
Le paysage, la nature, elle donne des émotions. Hein.
Ah oui, elle donne des émotions, des souvenirs aussi. Oui. Ah oui, oui, des magnifiques souvenirs. Oui, oui.
À aucun de vos enfants, vous avez transmis ce goût de l'aventure?
Pas tellement, non. Ils étaient plutôt réticents. Ils n'aimaient pas. Parce que j'arrivais en retard, j'étais tout le temps un peu occupée ailleurs. Et bon, ils m'attendaient plutôt avec impatience.
Oui. C'est un... parcours.
Mais j'aimais beaucoup l'Algérie. Et au début, du vivant de mon mari, nous avons fait des voyages, nous avons pris des enfants avec nous, et je tenais vraiment à connaître l'Algérie.
Oui.
Avec lui, qui me montre son pays. Oui. Donc nous avons visité l'Algérie d'est en ouest, et du nord, pas tout à fait au sud. Enfin, le sud, nous n'avons pas dépassé El Goléa.
Ouais, mais c'était... Il jamais trop tard, hein, madame, voilà. Zdira, pour y aller un peu plus loin. C'est très agréable. De toute l'Algérie, c'est Gigelles que vous aimez le plus?
Oui, c'est Gigelles parce que c'est une... Bon, c'est un coup de foudre qui a eu lieu le premier jour où je suis arrivée.
Ouais.
La première nuit plutôt, parce que nous sommes arrivés la nuit et mon mari était tellement content. Il m'a dit, il était minuit, il m'a dit, viens, je vais te montrer ma ville. Et on a parcouru la Gigelles déserte la nuit, et ça m'a impressionné de voir cette ville tranquille, les grands platanes, les maisons, on aurait dit, hein, c'est vrai que ce que j'avais vu me faisait penser à une petite ville de province française. Mais bon, c'est pas pour ça que ça m'a plu. Mais l'ambiance était magnifique.
Et aujourd'hui, les Gigéliens ont changé un peu, ou alors moi, l'impression qu'ils maintenant, c'est dans une quiétude.
Je crois qu'on peut pas généraliser, mais la ville a tellement explosé depuis le moment où je suis arrivée.
Ah,
je suis arrivée, il y avait 12 000 habitants. Maintenant, il y en a plus de près de 170 000.
Ah oui.
Donc, et quand je suis arrivée, il n'y avait pas un lycée. Maintenant, il y a 6 lycées, je crois, 5 ou 6 lycées.
L'université.
Qui est immense maintenant,
oui.
Vraiment. C'est une université avec des milliers d'étudiants.
Oui, oui.
Maintenant, l'université de Tassoust va contenir jusqu'à 25 000 étudiants, et il y en a déjà 11 ou 12 000 à l'université de Gigelles. Donc c'est énorme, c'est gigantesque, ça s'est développé de manière formidable, et je trouve ça bien. Mais il y a évidemment l'envers du décor,
oui,
qui est dû à un ensemble de conjonctures, les événements, tout ça, ça peut peser sur la ville.
Oui.
Mais son développement est remarquable,
oui.
Remarquable,
mmh.
Oui.
C'était un peu l'orpheline de Béjaïa, mais voilà qu'elle reprend sa revanche, là.
Elle prend sa revanche. Mm-hmm. Oui, l'envers du décor, évidemment, c'est les problèmes qui vont être résolus. Ça, je sais que ça va être résolu. Mm-hmm. Ce sont les problèmes de pollution.
Comme partout,
c'est malheureux.
Mm-hmm.
Les problèmes de pollution qui nuisent au développement de la ville. Parce qu'en fait, Gigelles, à l'origine, c'est un port de pêche. Maintenant, ça va être autre chose.
Oui, il y a trois ports, je crois.
Oui, il y a trois ports, un port militaire, un port de pêche et un port commercial. Donc, ça va. Mais je crois que la pêche, qui était tellement magnifique,
c'est un volet économique important.
C'est un volet économique qui comptait pour Gigelles. Maintenant, j'espère que ça va reprendre, parce que les côtes avaient une eau tellement pure, c'était tellement beau.
Et c'est le médecin qui parle là. C'est la santé, la pollution.
Oui, la pollution. Alors, je voulais parler du développement du service de prévention. Oui. Ah, ça a été fait par mon ami, mon collaborateur Malek Atoum, qui a pris en main, à partir des débuts des années 70, le service de prévention. Et qu'il a structuré. Il s'est occupé, lui, de vaccination, mais dans ce service de prévention, où j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler pendant quelques années, je faisais pas que ça. J'avais des collaborateurs actifs et compétents qui ont fait beaucoup. Mmh. Ouais, en tous les domaines. Mmh. Contraception. Oui. Le domaine de la surveillance des enfants, de la vaccination, le domaine de l'assainissement, de la lutte antipaludéenne qui se perpétuait, se perpétue parce qu'il faut, il faut un suivi, mm-hmm. L'hygiène scolaire. Bref, tous ces programmes qui étaient des programmes, en fait, de l'OMS, que l'Algérie appliquait, qui étaient appliqués, et je pense que ça a eu une grande importance pour le développement du pays. Cette politique-là.
Vous n'avez plus envie de faire quelque chose pour aujourd'hui,
Si.
C'est un secret, vous ne me dites pas.
Non.
D'accord. Alors, madame Zdira Corinne, merci d'avoir répondu à notre invitation ici à Gégel. On nous a dit de vous que vous étiez un personnage incontournable et que vous répondiez beaucoup, à chaque fois qu'on vous appelle. En tout cas, merci pour votre collaboration.
Merci. Au revoir.
Merci à Ardouane Akli pour sa collaboration. La semaine prochaine, nous nous retrouverons à la même heure et sur la même chaîne pour la quatrième et dernière partie à Gégel. Et si vous êtes là, alors ce sera bien.
عمل دار الكاسادة نزل المشي منها بعيدة حبوها شوية بزيادة ثم خلينا تنسيد العادة نعملوا دار للفبور ناس ما يشهدوش الزور ديما يتشاوروا في الأمور ساكن بيناتهم يعيش مستور نعملو دار للوزير هذاك الحي شحال علينا عزيز ما تبدل درس جارو بالويز ناس وكياس من اهل الميز نعملو دار لبو مرشي بيش تبحرون حب نمشي في الشتا ما فيهش الغاشي قصي بنسيم وما نشبع عشي اللي حب يفهم لا يقرا يعمل دار البين النصارى يحصل على حلوة عمورة كانت المخيرة المشهورة يجي جيجل تعمل دارة اللي طولت الهجرة حرق قلبك حرق الجمرة اللي تشوفها تفتح وتغرى عجبي على الحباب والصديقة يا محلى في الزرق الليقة صوت مواج تقول موسيقى نحملو دارا للساعة سي العربي رولا مكبر الشجاعة قام الواجب جماعة ودعاء بكل إخلاص وقناعة يا عديمة الشان يا بلاد سيدي حمدا مقران يا بلاد جيدا مزغيطان يا بلاد الفن والشجعان
شجعان تعمل طارة يا بلاد طولت والي عساس البحر يا جيجل يا ملاح كيف نصبر رح يحمم جبلي عليها الخبر يمكن رجيجل يا حبابي من فيلاج موسى العقابي ايوف ولاد عيسى على الشرقي ورمل والحدد على الغربي نختم القصيد وفا طلبي وصلت على النبي العربي صفي الخالد طالب ربي يغفل جميع الذنوبي جل 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 تعمل دارة اللي طولت لي درا حرقة قلبك حرقة الجمرة حين تشوفها تفتح وتقرا حين تشوفها تفتح وتبرأ